Radio Courtoisie, Histoire à la loupe.
Aujourd'hui dans Histoire à la loupe, la vérité sur John Ronald Reuel Tolkien, catholique anglais et écrivain très réactionnaire. Alors que l'on célèbre les 50 ans de sa mort dans un silence assourdissant, découvrons le vrai visage du père de Bilbo le Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Un ancien combattant de la Grande Guerre, écrivain catholique anti-moderne, épris d'épopée celtique et surtout réactionnaire intégral. Histoire à la loupe, une émission de Radio Courtoisie, récit de Pierre-Alexandre Bouclet, montage et arrangement sonore de Sandrine Moutier. La légende veut que John Ronald Reuel Tolkien soit entré en littérature en corrigeant les devoirs de ses élèves. Le docte professeur de philologie médiévale serait tombé sur une copie blanche et, sans trop savoir pourquoi, y aurait écrit « Dans un trou, vivait un hobbit ». Première phrase, première pierre d'un roman, Bilbo le Hobbit, qui, dès sa publication en 1937, remporte un grand succès public et reçoit le prix du meilleur livre pour enfants du New York Herald Tribune. 15 ans plus tard, son deuxième ouvrage, Le Seigneur des Anneaux, devient l'un des emblèmes de la contre-culture américaine, le livre de chevet de ceux qui rêvent d'une vie psychédélique au pays des Ents et des forêts elfiques, l'histoire qu'il faut absolument avoir lue sous acide, en planant au rythme des aventures médiévales fantastiques de Frodon, Gandalf, Aragorn, Legolas et les autres. La pression des admirateurs devient telle, avec avalanche de lettres, coups de fil de jour comme de nuit, personnes qui campent devant sa maison, que Tolkien, alors septuagénaire, est contraint de déménager. Le malentendu est néanmoins total entre l'écrivain et son public de groupies gauchistes. « Un chrétien, disait-il, a accès à un tel trésor d'abondance qu'il peut assister dans le fantastique à un enrichissement et à une multiple floraison de la création. » Voilà ce qu'écrivait Tolkien à ses éditeurs lorsque, au sommet de sa gloire, on l'interrogeait sur la symbolique de son œuvre. Loin du hippie flower power, passionné d'heroic fantasy, ou de l'improbable auteur nietzschéen et néo-païen que certains admirateurs ont cru voir en lui dans les années 1960, l'auteur de Bilbo le Hobbit était un tranquille professeur de l'université d'Oxford, catholique traditionnaliste et farouchement réactionnaire. Ses ouvrages empruntent certes aux mythologies germaniques et scandinaves, mais principalement sur la forme. Le message que Tolkien fait passer, et qui échappe malheureusement au film qui a triomphé sur les grands écrans avec l'adaptation de Peter Jackson, est essentiellement ce message, donc celui d'un catholicisme magique, je cite, qui prend source dans l'enfance agitée de l'écrivain. Retour aux sources. J.R.R. Tolkien, ainsi que le nomment les initiés de Bilbo le Hobbit et du Seigneur des Anneaux, est né à Bloemfontein, dans l'État libre d'Orange, le 3 janvier 1892. Ne supportant pas les fortes chaleurs, il doit quitter son pays natal pour l'Angleterre. Son père meurt en Afrique du Sud en 1896. De sa mère Mabel, catholique fervente, il reçoit une éducation traditionnelle, tourné vers l'exaltation des valeurs du passé et l'amour de la patrie. Son modèle est le chevalier médiéval, idéalisé par les légendes arthuriennes. Enfant, il tombe amoureux des arbres. Jeune homme pétri de latin, il se passionne pour les langues, la musicalité des mots et leur résonance. Découvrant l'ancienne littérature galloise, il se plonge dans les mythologies indo-européennes et bâtit pour la première fois un univers bucolique gentiment fantastique. En 1915, la Grande Guerre bouleverse cette paisible vie estudiantine. Tolkien s'engage comme officier de liaison, un poste exposé, et participe à la bataille de la Somme. C'est l'artillerie contre la chevalerie. Rejeton de la génération des tranchées, il revient traumatisé par les boucheries infernales auxquelles il a participé. L'expérience du combat donne une nouvelle dimension à son œuvre, qui évolue vers des rivages plus sombres, peuplés de bêtes féroces, créatures noires et diaboliques, rampant dans un univers cacophonique et malodorant. Le mal y est incarné avec une évidence sans pareille, parce qu'il règne sans partage. Son patriotisme s'est renforcé au contact de la boue des tranchées. « Il y eut jadis, dit-il, un jour où j'eus l'idée de construire un corps de légende, plus ou moins étroitement relié, allant des vastes cosmologies jusqu'aux contes de fées romantiques, et que je pourrais dédier simplement à l'Angleterre, à mon pays. » Voici ce qu'il écrivait après cette guerre. Une partie de son œuvre est en effet dédiée aux soldats britanniques, tout particulièrement aux fantassins, personnages effacés et modestes qu'il a côtoyés, mais dont le dévouement et le courage tranquille ont assuré, selon lui, la victoire de la couronne. Les hobbits, petits hommes au mode de vie petit bourgeois et rural, incarnent parfaitement pour lui ce fantassin anglais. Discrets jusqu'à l'insignifiance, ils révèlent leur valeur dans les moments de grand danger et s'avèrent de solides camarades. C'est aussi entre deux offensives que Tolkien rédige les premiers textes de sa mythologie. Probablement sous le choc des carnages de la guerre et des drames personnels, il y perd presque tous ses amis et camarades d'école. Il se réfugie dans un monde onirique et légendaire. Il est évacué en 1917 à la suite d'une blessure. Durant sa convalescence, il écrit les premières pages de ses récits elfiques, intitulés « Le livre des contes perdus ». De la guerre viendra aussi sa haine viscérale de l'industrialisation et des progrès technologiques. Comme bien des soldats, il a constaté l'impuissance dérisoire de l'être humain. Dans une guerre dominée par la production industrielle et la puissance de feu, une guerre où le courage et les vertus combattantes ont été annihilées par la technique et la puissance matérielle. Tolkien est révulsé par cette guerre plus horrible que les autres encore, puisque les valeurs du chevalier y sont irrémédiablement pulvérisées par celui qui est du bon côté du barrage d'artillerie. Après 1918, le progrès le poursuit comme un ennemi personnel, ravageant la nature et les paysages de son enfance. Il raconte « Le vieux moulin est encore debout, mais le croisement après les temps est devenu un carrefour dangereux, plein de voitures et de feux rouges. Comme j'en vis ceux dont les premières et précieuses visions n'ont pas eu à souffrir une transformation si violente et si abominable !» Malgré cette horreur de l'industrialisation, Tolkien refuse, même riche, de quitter sa banlieue d'Oxford pour une vie rurale et isolée, parce qu'un ancien combattant anglais ou un hobbit digne de ce nom ne recule pas devant l'ennemi, ils lui font face. Son meilleur biographe, John Carpenter, explique l'enracinement de Tolkien dans cet univers hostile en soulignant la dimension religieuse du personnage. Il raconte « Sa réponse venait de sa croyance selon laquelle nous vivons dans un monde déchu. Sa mère, morte alors qu'il était très jeune, lui avait été enlevée par la méchanceté du monde, et même Sarah Hall, où il passa son enfance, avait été détruit. En ce sens, dit Carpenter, c'était une attitude profondément chrétienne et ascétique que de subir cette situation. Cette forme spéciale de résistance rejaillit sur les autres aspects de sa vie. Politiquement, Tolkien est ultra-conservateur. Anglais, il aime sa monarchie, mais il l'aurait simplement souhaité un peu moins démocratique. Car la démocratie, dit-il, peut mener à la dictature d'un orque. personnage peu recommandable de son univers. Antimoderne, il associe la pollution industrielle aux valeurs modernistes, forme de pollution spirituelle. Nos mythes, écrit-il, peuvent se fourvoyer, mais même s'ils boitent, ils avancent vers le port véritable, alors que le progrès matérialiste ne conduit qu'à l'abîme et à la couronne de fer de la puissance du mal. La Seconde Guerre mondiale renforce ce sentiment. L'Allemagne nationale socialiste s'étant inspirée des mythes qu'il aimait tant. Là encore, il écrit « J'ai une rancune personnelle envers ce grossier petit ignorantus d'Adolf Hitler qui a ruiné, perverti, dévoyé et maudit à jamais ce noble esprit nordique que j'ai tant aimé et que j'ai tenté de montrer sous son meilleur jour. » Après 1945, Tolkien se réfugie plus encore dans les clubs masculins, qu'il a toujours affectionnés. Avec l'écrivain C.S. Lewis, l'auteur des fameuses chroniques de Narnia, il fonde les Inklings, un célèbre club d'écrivains chrétiens. Il est aussi fondateur d'un club viking, et il accueille ses amis régulièrement pour boire force bière, raconter des légendes, chanter des chansons comiques. En ces lieux retranchés du monde moderne, entre hommes, Tolkien s'épanouit. Sorti des clubs, il se laisse au contraire facilement aller à la mélancolie. D'où le recours à l'écriture. Il s'exprime dans son journal, où il noircit des dizaines de pages. Et à ses heures perdues, il élabore son univers. Devenu professeur en 1920, il enseigne l'ancien anglais, divers dialectes régionaux et la littérature médiévale à l'université d'Oxford. Il maîtrise le grec, l'hébreu, le gallois et les langues germaniques, mais il avoue une tendresse toute particulière pour le finnois ancien. Un élève se souvient. Par son métier et son art de conteur, le professeur Tolkien pouvait transformer une salle de classe en salle de château, où il était le barde des nous les hôtes, assis à festoyer et à l'écouter. Sans croire au sens premier de ses créations mythologiques, Tolkien pensait qu'elles correspondaient à des vérités profondes. Je le cite. « Les hobbits sont simplement des Anglais de la campagne, rapetissés pour indiquer l'étroitesse habituelle de leur imagination. Ce qui n'est pas du tout un manque de courage ni de puissance latente. Symbolisme ne l'empêchait pas de présider des dîners hobbits, où, avec ses compagnons, il célébrait joyeusement l'esprit du petit peuple, bien vivant dans son esprit aux rêves somptueux.
Écoutons un extrait du documentaire télévisé de la BBC, Tolkien in Oxford, en 1968. Dans cette mythologie, tout le monde, y compris les esprits divins sous l'égide de Dieu, commet des erreurs, et bien entendu, les dieux ont commis une erreur majeure. Au lieu de laisser les elfes et les hommes trouver leur voie sous la direction de Dieu, ils ont invité les elfes, parce que le rebelle parmi eux, le méchant dieu Melkor, était vivant et avait dévasté une grande partie du monde. Ils les ont ramenés dans leur paradis à l'ouest pour les protéger, et toute la machinerie commence donc par la rébellion des elfes, et donc par la rébellion contre le mal qu'ils ont fait en s'échappant du paradis. À notre époque, il y a donc deux groupes d'elfes. Ceux qui n'ont jamais commencé, qui n'ont jamais voulu, qui n'ont jamais pris la peine d'être plus élevés qu'ils ne l'étaient, sont les elfes ordinaires des bois de l'Extrême-Orient. Et ceux qui ont commencé à aller au paradis divin et n'y sont jamais arrivés, c'est-à-dire les elfes gris de l'Ouest, et ceux qui y sont allés et en sont revenus en tant qu'exilés. Les elfes supérieurs, qui chantent au début du Seigneur des Anneaux, sont des elfes exilés qui ont connu autrefois ce que c'était que de voir les dieux en personne. Les nains créent une difficulté dans ce domaine particulier. Ils ont certains griefs contre les hommes et les elfes. Ils sont incarnés dans des corps. Bien qu'ils soient comme nous ne savons pas grand-chose d'eux. Mais ils sont apparemment mortels. Bien sûr, il faut faire un grand tri pour déterminer leur origine. Je ne pense pas en parler pour l'instant, mais ils ont une origine rationnelle liée à leur thème. Mais ils ne font pas partie des enfants de Dieu. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Les hommes, eux, ne sont que des hommes.
Le Seigneur des Anneaux lui a apporté un succès tardif. D'autant plus stupéfiant qu'il était totalement inattendu. La trilogie a été écrite en 1955, mais il faut attendre 10 ans, 1965 donc, pour assister à son explosion médiatique. 1 million de livres sont vendus cette année-là. Aujourd'hui, précisons que les 250 millions sont largement dépassés.
La légende parle de Sauron, le seigneur des ténèbres, et de l'anneau qui lui conférerait le pouvoir d'asservir le monde. Il a été perdu depuis des siècles. Il vient d'être retrouvé. Est-il caché? Est-il en sûreté? Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le seigneur des ténèbres. Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de secondes ténèbres. Il le cherche. Il le cherche. Toutes ses pensées sont focalisées sur lui.
Personne ne sait qu'il est ici, n'est-ce pas? Répondez, Gandalf.
Donnez au Gondor l'arme de notre ennemi et laissez-nous l'utiliser contre lui.
On ne peut le contrôler. Aucun d'entre nous ne le peut.
L'anneau doit être détruit.
L'anneau a été forgé dans les flammes de la montagne du destin. Il n'y a que là qu'il puisse être détruit.
Je sais ce que je dois faire. Seulement, j'ai peur de le faire.
On n'entre pas si facilement en Mordor.
Il n'y a pas d'autre moyen. Oui.
Pas assez, apparemment.
L'adaptation parcellaire mais somptueuse de Peter Jackson fait exploser la popularité du Seigneur des Anneaux et le révèle au plus grand nombre. À son grand étonnement, Tolkien devient une véritable idole. Des cercles Tolkien apparaissent un peu partout. Des gadgets, des badges, des jeux enflamment l'imaginaire d'adolescents pour qui il est un maître. Un maître incompris alors, car il n'apprécie pas beaucoup que son œuvre médiévale fantastique ne soit perçue qu'en surface, alors que tous ses disciples, entre guillemets, le voient dans le rôle du mage Gandalf, lui-même se range dans le camp des petits hobbits, ces combattants discrets, au bon sens populaire solide et au goût simple. Plus grave, cet homme qui cultive un anarchisme réactionnaire de bon aloi voit d'un très mauvais œil le fait d'être admiré par des hippies réfractaires à l'ordre et aux traditions. Tolkien considère en effet comme un art le fait de s'habiller banalement. Avec son célèbre compère Lewis, il pousse jusqu'à la caricature leur goût pour les vestes en tweed, les pantalons de flanelle, les cravates impossibles, les imperméables couleurs muraille, les chapeaux ternes et les cheveux courts. En bon britannique, Tolkien estime que le véritable anticonformisme vient du contraste entre une apparence anodine et une exubérance intérieure. Les adolescents hirsutes constituent pour lui le comble du conformisme et du mauvais goût. Malgré cela, le bon vieillard répond toujours à ses lecteurs, abordant avec une flegmatique modestie et un recul amusé les plus folles lettres d'admiration des gauchistes en goguette. Loin des considérations matérialistes ou ésotériques de ses admirateurs, Tolkien aimait à dire que l'histoire du Christ est la plus grande de toutes, parce qu'elle est, disait-il, l'histoire vraie par excellence. L'événement historique accomplissant pleinement toutes les légendes et leur donnant toute leur vraie signification. À l'université d'Oxford, où enseigne Tolkien, les débats religieux sont fréquents. C.S. Lewis y participait avant puis après sa conversion au christianisme, réalisée d'ailleurs grâce à l'influence de l'auteur du Seigneur des Anneaux. Tolkien et lui passaient des soirées entières à se promener dans les allées boisées du campus, à discuter de leurs travaux et de religion. Une fois Lewis converti, les deux amis réfléchissent aux moyens d'intégrer le christianisme à leur œuvre. C'est durant leur réunion aux Inklings, le club chrétien, qu'ils affinent leurs réflexions. Ils décident de replacer les messages chrétiens, je cite, « dans un monde imaginaire, en les dépouillant des associations avec les vitraux d'église et avec l'école du dimanche, pour les faire apparaître dans leur vraie puissance. » Tolkien a beaucoup écrit, notamment dans ses correspondances, sur l'analyse de son œuvre. Et on sait que si ses ouvrages mettaient moins en évidence leur dimension chrétienne que ceux de son ami Lewis, c'est simplement parce que son univers imaginaire des terres du milieu était un monde monothéiste de théologie de la nature. L'absence de représentations religieuses concrètes ou matérielles, comme des églises, des cérémonies religieuses, ou même de simples prêtres, est simplement due au fait, selon lui, que ce monde s'inscrit dans un autre climat historique. Mais il reste persuadé que pour qui veut les voir, les vérités éternelles de la création sont tout aussi visibles dans la réalité que dans sa sous-création fictive. Le soir où Lewis se convertit au christianisme, Tolkien lui dit d'ailleurs « Nous sommes issus de Dieu, et inévitablement, les mythes que nous avons tissés, bien qu'ils contiennent des erreurs, refléteront des fragments de la véritable lumière, la vérité éternelle qui est auprès de Dieu. » Ainsi, malgré sa dimension fantastique, l'œuvre de Tolkien s'ancre donc dans un grand fond chrétien et même spécifiquement catholique. Dans Le Seigneur des Anneaux, comme dans le Silmarillion, qui est la sorte de genèse de son monde fantastique, Tolkien intègre des thématiques et des concepts facilement identifiables, comme l'espérance, la foi, la rédemption, la lutte du bien contre le mal, la notion de péché, les vertus, l'aspiration et la marche vers un monde meilleur. Le Silmarillion, qui raconte 1000 ans de l'histoire des Terres du Milieu, évoque, à travers la description de créatures fantastiques, une déité toute puissante et généreuse qu'il nomme Eru, l'unique qui a créé le monde du néant. Suivez mon regard. Des êtres angéliques comme les elfes évoluent au milieu de créatures qui ont connu la chute. Les elfes symbolisent des hommes épargnés par le péché originel. Tolkien croyait fermement qu'il y avait eu un Éden sur la terre et que le péché originel de l'homme était responsable des maux de l'humanité. Pour lui, les elfes, qui ne sont pas tombés au sens théologique du terme, ont des pouvoirs qui surpassent de loin ceux des humains. Ceux qui ont lu les livres ou qui ont vu les films éventuellement le savent. Les elfes sont immortels, ils vivent dans un univers merveilleux de paix et de félicité, et sont sans doute les êtres les plus positifs du monde de Tolkien. Tous les autres, à un certain degré, sont tombés. Et ils cherchent la rédemption, ou ils s'enfoncent dans le mal. Et pourtant, même Gollum, créature pervertie et difforme, qui tient un rôle fondamental dans la quête des héros, trouve une explication dans l'œuvre, car ils servent inconsciemment les desseins du bien. Enfin, entre autres thématiques chrétiennes, l'une des plus évidentes, est celle du choix du sauveur des terres du milieu, le petit Frodon. De toutes les personnalités de la geste du Seigneur des Anneaux, aucune ne semble en mesure de porter l'anneau maléfique au cœur du Mordor, les terres où règne le mal, afin de le détruire. Ni le surpuissant et sage magicien Gandalf, ni les elfes, aussi purs soient-ils, ni les grands, beaux et justes guerriers humains, ni les nains. Ce sont finalement Frodon et son compagnon Sam, de jeunes hobbits, l'espèce la plus faible, la moins noble et finalement la plus anodine, qui sont choisis pour accomplir cette mission. Encore une fois, concernant l'aspect catholique, chrétien de l'œuvre de Tolkien, il faut citer son biographe Carpenter qui le dit. Les écrits de Tolkien sont ceux d'un homme profondément religieux. Dieu est essentiel dans le Seigneur des Anneaux, et sans lui, la Terre du Milieu n'existerait pas. En dépit d'un succès planétaire, Tolkien vieillit tristement. Son meilleur ami et sa femme meurent avant lui. Il se coupe ensuite d'un monde universitaire qui l'agace par sa dégénérescence, son conformisme et son manque cruel d'enthousiasme. Avant tout le monde, il déplore que la faculté devienne une usine à diplômes, alors qu'elle devrait être un lieu où s'enrichissent les passions. Et même la religion lui fait une cruelle surprise en se transformant. Catholique fervent, passionné par la liturgie, la religion était pour lui un des aspects les plus profonds et les plus importants de sa personnalité. Tolkien, amoureux du latin, amoureux, sincère, profond, souffre profondément de voir la messe célébrée en langue vernaculaire. Pourtant, il va rester indéfectiblement fidèle à Rome. Et jusqu'à sa mort, en septembre 1973, il trouve refuge dans ses clubs et dans l'exploration de son monde imaginaire. Il n'achève pas son œuvre majeure, le Silmarillion, à cause de son perfectionnisme qui lui faisait recommencer et recommencer des chapitres entiers. Outre Bilbo et le Seigneur des Anneaux, il laisse des dizaines de nouvelles fantastiques et de travaux universitaires ou para-universitaires, comme un alphabet elfique qu'il bâtissait pour s'amuser. Tolkien était un écrivain flamboyant, une personnalité complexe, traumatisée par la guerre et la fin du monde traditionnel. Et il se ressourçait, on l'a vu, dans la camaraderie et dans un christianisme médiéval, l'expression est de lui, dont il appréciait le mystère et la magie. L'expression est de lui encore. Souvent pessimiste, triste, mélancolique, il ne s'est jamais permis de désespérer, car le désespoir, qui n'est pas élégant, était en outre pour lui un péché contre la Providence. C'était Histoire à la loupe, une émission de Radio Courtoisie. À la semaine prochaine.